Ce soir, nous faisons cette leçon sur la confession. Pour commencer cette leçon sur la confession, je vais vous demander de prendre le petit guide pour se confesser à l'usage des petits et des grands. Voilà. Où il y a des extraits de la Sainte Écriture. Mais comme je serai assez catéchétique, ça ne sera pas trop centré sur la Sainte Écriture ce soir. Psaume 31, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Confesser ses péchés, je vous avais dit que dans la prière, le fait de parler à Dieu, il y a quatre intentions. La première, c'est d'adorer Dieu, le reconnaître comme le Créateur. Donc le reconnaître comme l'auteur de la vie, le Tout-Puissant. C'est la fin d'adoration. On dit latrotique en termes techniques, je crois. Ensuite, vous avez les remerciements pour exister, pour avoir la vie. C'est la fin eucharistique au sens strict du terme, c'est rendre grâce à Dieu. Ensuite, vous existez, vous reconnaissez qu'il est l'origine de votre être, vous le remerciez, et ensuite, vous regrettez de ne pas être fidèle à tant de grâce. Donc c'est la prière de regret de ses fautes. Et puis, après avoir regretté vos fautes, contre les bienfaits d'exister et la vie et tout ce que nous avons dans notre vie, vous prenez un peu plus d'assurance et vous lui demandez d'autres grâces. Voilà. Et c'est la quatrième fin de la prière qui est de demander des choses supplémentaires à Dieu. La première intention, c'est de le remercier, de le reconnaître, de l'adorer, comme source de toute grâce et de toute vie et toute grâce, tout don. La deuxième intention, c'est non pas seulement de le reconnaître, mais de le remercier vraiment. L'adoration est déjà une sorte de remerciement, puisqu'on le reconnaît comme le Tout-Puissant. Mais la deuxième intention est particulièrement de rendre grâce. Il nous donne la grâce, on lui rend la grâce, on lui demande pardon pour mal utiliser la grâce, la vie qu'on a et tout ce qu'on a pu recevoir dans notre vie. Et la quatrième intention, c'est de lui en demander d'autres quand même. Voyez. Par exemple, on vit et puis on vieillit et puis on est malade par exemple. Voyez. Et donc, comme disait un humoriste, voyez-vous, quand c'est un médecin de Marseille qui vous dit « Ah, mais vous avez un cancer !» Voilà, et c'est beaucoup plus drôle et chantant, mais sur le coup, ça vous fait... C'est un peu triste, vous voyez. Et vous demandez à Dieu la guérison. Ou alors, vous voyez, voilà, il vous arrive un dégât des eaux dans votre appartement, voilà. Vous êtes un enfant et vous voulez des bonnes notes pour votre interrogation du lendemain. Vous êtes un bachelier, vous voulez réussir votre bac, tout d'un coup, il y a un moment de piété avant les examens qui se remarque. Vous voyez, c'est la quatrième intention de la prière qui surgit en cas de besoin. Ou alors, vous êtes en train de faire de l'aquaplanning sur l'autoroute, et là, tout d'un coup, si vous avez un peu de temps, si au troisième tour, vous n'avez toujours pas percuté quelque chose, vous priez. Vous demandez à Dieu que vous sortiez vivant de l'accident qui arrive. Parce que vous voyez la rambarde de l'autoroute arriver, elle repart, mais vous vous approchez d'elle. Voilà. Ou alors il y a...
C'est exactement ce qui m'est arrivé, donc ça peut vous arriver aussi.
Tout à fait. Il y a un militaire américain qui a dit avoir prié deux fois. Ça, la première fois qu'il a prié, il était dans un trou d'obus au Vietnam, et il y avait des Viet Minh qui arrivaient... ils s'échangeaient des obus et lui allait mourir probablement. Et il a prié pour ne pas être saisi et tué. Et la deuxième fois qu'il a prié, c'était dans un avion où le pilote a été extraordinaire puisqu'ils sont passés de 10 000 mètres à 3 000 mètres en environ 5 secondes, ce qui est assez raide hein, au point de vue des jets que vous supportez, vous voyez. Et donc, il a prié. Il a dit « j'ai prié hein, ». Il a dit « j'ai prié dans ce trou d'obus et dans ce d'avion ». Voilà. Eh bien, ce soir, nous allons voir ce que c'est que de regretter. Regretter, c'est d'avoir été ingrat, d'avoir profité de la vie que nous avons et des capacités que nous avons pour faire le mal. Alors, il y a la malice, qui est le mal connu, et vous avez la faiblesse, c'est les péchés qui nous... comment dire... que nous disons être impossible à empêcher, par exemple mentir devant une question indiscrète, ou par rapport à se mettre en colère, ou alors pour un prêtre de dire du mal des autres, vous voyez, un prêtre a du mal, surtout de ses confrères en général. La médisance est un sport sacerdotal olympique. Nous avons tous les ans la médaille d'or. Vous voyez, s'il y avait des olympiades de la médisance, les prêtres seraient toujours premiers. Parce que nous ne pouvons faire que ça. Dès que nous faisons pire, n'est-ce pas, on nous, c'est scandaleux. Vous voyez, en France, un prêtre en Alfa Romeo, c'est un crime. En Mercedes, ça c'est plus possible. Et alors, en Rolls ou en Porsche, ça va pas. Porsche Cayenne, déjà, ça fait plus installé. Mais vous voyez, ça va pas. Mais par contre, voyez-vous, un prêtre qui dit du mal de quelqu'un, mais de manière extrêmement polie, et là, tout ça passe. Eh bien, nous allons voir justement ce qui se passe dans le vrai péché. Et là, vous avez de quoi faire. Vous avez différents examens de conscience que je vous ai distribués. Et nous allons commencer par la Sainte Écriture. Psaume 31. « Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. » En religion naturelle, sans la révélation, on a peur d'avoir offensé le Tout-Puissant et on lui demande pardon. Toutes les religions ont la demande de pardon. Alors avec plus ou moins de crainte, pour apaiser le courroux de Dieu. Et on estime justement que la maladie, que la mort, que les catastrophes naturelles sont des colères divines. Alors que ça peut être ou une colère divine, ça les prêtres ne le disent plus, mais c'est vrai, si, les catastrophes naturelles peuvent être provoquées par Dieu, exprès, c'est affreux ce que je dis, mais enfin, j'assume, ou alors c'est tout simplement les lois naturelles et Dieu nous laisse l'épreuve arriver. C'est pas une punition divine que vous ayez un cancer à 75 ans, c'est pas vrai, c'est le corps humain qui s'abîme. Et c'est une conséquence du péché originel, vous me direz. Notre corps aurait dû être en harmonie avec notre âme immortelle, mais Dieu nous a dit, si vous péchez, vous mourrez de mort. Et là, il n'y a rien à faire. Et que la Vierge Marie qui ne serait pas passée par la mort. Mais l'homme a peur des punitions divines. Vous voyez, les Incas, eux, pour apaiser le soleil, les tremblements de terre, pour gagner à la guerre, on faisait des sacrifices. Mais les Romains aussi le faisaient. Les druides faisaient aussi des sacrifices humains. Voyez. Donc moi, si j'étais druide, n'est-ce pas, eh bien je couperais la gorge d'une jeune vierge au solstice d'été ou d'hiver pour apaiser les forces de la nature. Je serais un écologiste accompli. Mais c'est des fausses religions, avec des intuitions vraies, mais qui dérivent, voyez, profondément. Régulièrement, l'Église, au nom du Christ, nous invite à célébrer le sacrement de réconciliation. De nos jours, on parle de sacrement de réconciliation, c'était la confession. Se confesser n'est pas toujours facile, ce petit guide peut nous y aider. Si nous disons « nous n'avons pas de péché », nous nous abusons, La vérité n'est pas en nous, nous dit saint Jean. Pour faire la vérité, l'Église nous invite à examiner notre conscience à la lumière de la parole de Dieu. Les 10 commandements, qui sont un rappel de la loi naturelle, toute âme humaine connaît les 10 commandements, figurez-vous. Moïse n'a eu qu'un rappel à donner au peuple juif. Mais tout le monde sait qu'il ne faut pas mentir, tout le monde sait qu'il ne faut pas voler, et c'est la loi naturelle. Et vous avez actuellement des personnes, voire des théologiens, voire des prêtres, voire des évêques, qui vous disent qu'il n'y a pas de loi naturelle. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'objectivité dans l'agir humain. Et que vous avez des civilisations qui admettent le mensonge. Ben, c'est faux. Voyez. Ils peuvent admettre le mensonge pour éviter de mourir, ou pour se tirer d'affaire, comme Confucius le préconise. Mais dans la vie ordinaire, si, voyez-vous, la maman dit aux enfants « Ce soir, le repas est à 19h », et puis en fait, ils arrivent à 19h, et la maman arrive et dit « Non, c'est à 21h !» Je vous ai menti. Là, les enfants, ils sont là, ils disent « Mais elle perd la tête, maman !» Ou alors, le repas ce soir est à 20h. Elle le fait à 18h, elle mange. Et les enfants arrivent à 20h et disent « Eh ben non, c'est à 18h, je vous ai menti. » Mais c'est impossible. Vous allez me dire, je dis à mon assurance, ma voiture a brûlé, ce sont des personnes qui l'ont incendiée dans la cité. En fait, c'est vous qui avez mis le feu à votre voiture pour toucher l'assurance. Eh oui, mais à force de mentir comme ça, les assureurs vont avoir des difficultés, si tant est qu'ils puissent en avoir. Mais vous allez j'ai perdu mes clés, en plaisanterie. Et votre père a dit, ah bon, il appelle un serrurier. La clé de la maison a été perdue, tout ça, on ne peut pas ouvrir. Il appelle un serrurier, tout ça. Il dit, non, en fait, j'avais les clés. C'est un mensonge joyeux. Ah oui, mais enfin, 200€ le mensonge joyeux. Vous voyez. Alors, si c'est une ouverture de porte avec une radio, c'est 100, 120 ou 80 euros. Et s'il commence à percer la serrure, non, c'est 1000€, hein, 700€. Et le mensonge détruit la vie sociale. Et, alors je vous ai donné des exemples humoristiques, mais il y a des... Vous voyez, on compte sur la vérité. C'est la nature humaine. D'après le commandement de l'Église, numéro 1457 du catéchisme de l'Église catholique, tout fidèle parvenu à l'âge de la discrétion doit confesser au moins une fois par an les péchés graves dont il a conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? La discrétion, c'est le jugement. C'est avoir l'âge de raison. De savoir si on ment ou si on ne ment pas. C'est théoriquement à 7 ans. Vous avez des enfants de 4 ans qui mentent. Et qui ont honte de mentir. Mais ils ont l'âge de raison. Ils ont un âge de raison qui est plus ou moins fixe par rapport à d'autres actes de leur vie. Mais par exemple, sur le mensonge, ils savent. Et donc vous allez dire, ah bon, mon enfant ayant 4 ans, je ne vais pas lui reprocher d'avoir menti. Et de toute façon, il ne faut pas faire de reproches, c'est le pauvre enfant, il est là, fais ce que tu veux. Eh bien, voyez-vous, la discrétion ici, ça veut dire de raisonner par rapport au vrai, au faux, au bien, au mal. Un enfant, un bébé qui a quatre pattes dans le salon, qui choque une petite table d'apparat avec un vase Ming de 10 000 euros au-dessus, et le vase tombe, il n'a pas fait exprès. L'ado qui dit « j'en ai marre, ici on ne m'aime pas » et qui prend le vase Ming et qui le jette contre le mur, lui, il pêche. C'est le discernement. Eh bien, dans l'histoire humaine, À quel moment on a reconnu ses torts face à Dieu? Eh bien, dans une prière personnelle. Ou alors, on va chercher quelqu'un qui va être coupable d'avoir péché et qui a attiré sur la communauté le malheur ou la punition divine. Et les hommes vont avoir envie de reconnaître leur faute vis-à-vis de Dieu. Ou alors, ils vont reconnaître leur faute vis-à-vis de l'autorité. Ou alors, des enfants vont reconnaître leur faute vis-à-vis de leurs parents. Mais dire ses péchés à quelqu'un d'autre qu'à soi-même, ça existe. C'est pas le Christ n'a pas eu une idée comme ça lorsqu'il a dit à ses apôtres qu'il a soufflé sur eux après la résurrection et qu'il leur a dit « Tout ce que vous retiendrez sera retenu et tout ce qui vous sera délié. » Donc il leur donne le pouvoir de pardonner. Mais pour pardonner, il faut qu'ils sachent ce qu'il y a à pardonner, il faut leur dire. Vous avez des exégètes qui vous disent « Oh, mais la confession, c'est apparu que vers les années 600, on vous concède 490-500 dans une crique d'Irlande où des moines, éventuellement, avaient commencé à se dire leurs péchés les uns aux autres. » Ah bon? Alors comment ça se fait que les pères du désert du 2e, 3e siècle se confessaient aux prêtres ou aux sages de la communauté? Et le sacrement de confession, ça sera au prêtre, à l'évêque. Parce que là, il y a un pouvoir certain de pardonner le péché. Il y a un mérite à être humble et à reconnaître ses torts auprès de n'importe qui. Ses parents, une autorité. Mais le sacrement de confession, contrairement à ce que disent justement certains historiens ou certains exégètes, n'est pas apparu tardivement. C'est, voyez, vous avez un homme qui trompe sa femme. Il arrive dans l'église et dit « J'ai trompé ma femme !» Voilà. Non, 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 non. Si personne ne le sait, il ne va pas faire ça. Ah oui, mais non, c'était des communautés extrêmement fortes, sincères. Si, si, il disait ça. Et du coup, pendant 10 ans, il ne pouvait pas communier, le bonhomme. Non. Par contre, voyez-vous, vous avez quelqu'un qui faisait un péché public, qui par exemple trompait sa femme, et ça se savait dans la communauté chrétienne, et bien pendant 10 ans, il devait faire pénitence, parce que ça c'était, tout le monde le savait. Et en punition, il devait pendant 10 ans ne pas communier et partir même avant la consécration. C'était des pénitences très lourdes pour les péchés publics. Mais vous pensez bien que tout le monde n'avouait pas ses péchés secrets et qu'il pouvait en parler à un prêtre. Surtout quand vous aviez un évêque par ville, même une petite ville. On se confessait à l'évêque. Et quand l'évêque ordonnait des prêtres, parce que la ville devenait plus grande et qu'il n'y avait pas qu'un seul lieu de messe, voyez, vous étiez en persécution, vous aviez 20 000 personnes dans une ville romaine, et vous aviez un évêque, qui avait 2-3 prêtres, et il célébrait la messe à un endroit, discrètement. Et puis avec la paix constantinienne, après 313, eh bien, la ville est plus grande, on va créer une autre église. Et je vous ai dit la dernière fois, parce que les prêtres célébraient la messe alors que l'évêque n'était pas là, voyez, de la messe de l'évêque, on prenait une parcelle de l'hostie qu'on amenait aux autres paroisses pour les mettre dans le calice, pour montrer l'unité des prêtres autour de l'évêque, parce qu'il n'y avait qu'un seul évêque par ville. On dirait, à Paris actuellement, il y a 4 évêques, 4 auxiliaires et l'archevêque. Oui, mais c'est une coutume pour aider l'évêque. Mais en droit divin, il y a un évêque par ville. Vous voyez. En droit positif ecclésiastique, il peut y avoir des évêques auxiliaires. Mais alors vous allez me dire, mais pourquoi vous dites que c'est le droit divin? Mais parce que justement, saint Paul va imposer les mains et va dire à Timothée, tu seras évêque d'Éphèse. Il va dire à Tite, tu seras évêque de Crète. Et on va se confier à l'évêque pour ses fautes personnelles graves. Qu'est-ce qui, est l'objet du regret, ce qui est grave? Vous pourriez, si vous aviez, vous étiez certain de ne faire que des péchés véniels, vous dispenser de confession. Vous regretteriez vos fautes dans votre prière, à la messe, en recevant la Sainte Communion, humblement, et vos mensonges sont remis par la piété avec laquelle vous recevez notre Seigneur dans la Sainte Hostie. Communier pieusement remet les péchés véniels. Dire le Notre Père pieusement remet les péchés véniels. La confession, c'est pour les fautes graves. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus aurait pu ne pas se confesser. Vous voyez, je sais pas, à 20 ans, jusqu'à sa mort, elle aurait pu ne pas se confesser, puisqu'on n'arrivait pas à trouver les péchés chez les ailes. Ou Saint Louis Gonzague aurait pu ne pas se confesser. De toute façon, il confessait toujours deux péchés véniels. Il avait répété des jurons de soldats de son père, de l'armée privée de son père, et il avait déclenché un canon il accompagnait son père lors d'une campagne, il y avait des canons qui était disposé et chargé, il n'a pas pu s'en empêcher, il a allumé une mèche. Et vous avez pour un boulet qui est parti droit devant, heureusement que ça n'a pas fait de mort, hein, mais il n'a pas pu s'en empêcher. Voyez. Pour un enfant, c'est un péché véniel, parce que s'il avait tourné le canon vers une tente et pour voir ce que ça faisait sur les soldats, là c'était un péché mortel, parce que là, pour le coup, il faut le faire exprès de tourner le canon. Hein, vous voyez. Mais c'est un enfant, il a joué avec le feu. Et moi, un jour, j'ai mis une pile plate sur une gazinière pour voir ce que ça faisait. Eh bien, encore un peu, et là, en ce moment, je vous parlerai borgne. Parce que la pile a sauté. Voilà. Il s'est divisé en deux. Et j'ai eu la partie supérieure dans la bouche. Et, donc, chaude. C'est un péché véniel, de curiosité. Voyez. Eh bien, la confession, le regret de ses fautes devant le Tout-Puissant, normalement, c'est pour les fautes graves. Par exemple, vous humiliez quelqu'un en famille, à un repas de famille, au point que ça arrête les conversations, qu'il se lève et tout ça. Mais bingo, vous avez fait une faute grave. Matériellement. Alors, on estime que c'est plutôt des péchés véniels. Mais oui, mais voyez-vous, on pense toujours, en général, aux péchés contre la sexualité humaine, mais on oublie toujours les humiliations ou les mépris. Faites attention, parce que vous pourriez faire des fautes plus graves que vous ne pensez. Mais ça, on va le voir. Vous allez terminer scrupuleux à la fin de... Celui qui a conscience d'avoir commis un péché mortel, c'est un péché grave, une matière grave, nous allons ensuite décliner, ne doit pas recevoir la Sainte Communion, même s'il éprouve une grande contrition, sans avoir préalablement reçu l'absolution sacramentelle. Les enfants doivent accéder au sacrement de la pénitence. Vous voyez, dans le catéchisme de l'Église catholique, on ne dit pas sacrement de réconciliation, on dit le terme exact, sacrement de pénitence. Avant de recevoir pour la première fois la Sainte Communion. Alors, est-ce que ce numéro 1457 est bien compris? Il y a derrière ce numéro la vérité de la conscience éclairée. La conscience ne crée pas ce qui est vrai ou ce qui est faux. La conscience, c'est un acte intérieur de l'intelligence qui juge nos actions passées, nos actions présentes, nos actions futures, suivant ce que l'on sait vrai ou faux. Et pour savoir ce qui est vrai ou faux, nous avons notre raison et nous avons l'éclairage de ceux qui ont la raison, ou vous avez l'éclairage de Dieu et des prophètes de la révélation. Mais votre conscience ne peut pas se mélanger avec votre volonté qui veut ne pas avoir tort. La conscience est objective, elle n'est pas subjective. Et, et si vous êtes persuadé d'être dans le vrai et dans le bien, à ce moment-là, vous ne péchez pas, en effet. Mais si votre conscience vous dit « Ah, moi j'ai appris que ça c'était mauvais », votre volonté ne peut pas transformer le jugement, le constat de votre conscience. Et vous aurez beau vous persuader, vous persuader, vous persuader, vous n'arriverez pas à vaincre votre conscience. Donc si de l'extérieur on vous dit « Mais vous savez, vous avez envie que ça soit bon ce que vous vivez, allez, persuadez-vous et vous êtes dans la paix de Dieu. » Ben non, 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 non. Et si quelqu'un d'extérieur vous dit « Ça c'est vrai, ça c'est faux », vous êtes obligé d'en tenir compte. Et votre conscience doit changer parce que vous êtes Dieu, vous êtes le sage. Non, vous devez tenir compte de ce que vous disent ceux qui ont les cheveux blancs. Vous devez tenir compte de ce que vous dit l'Église. Mais l'Église a tort. C'est pas possible. Oui. Ah. Saint Jean-Paul II. Il serait illusoire de vouloir tendre à la sainteté, selon la vocation que chacun a reçue de Dieu, sans s'approcher fréquemment et avec ferveur de ce sacrement de la conversion et de la sanctification. Au moins une fois par an n'est qu'un minimum indispensable. Mais nous pouvons aussi nous confesser régulièrement pour former notre conscience, pour lutter contre nos penchants mauvais, pour nous laisser guérir par le Christ, pour progresser dans la vie de l'Esprit Saint, en recevant plus fréquemment par ce sacrement le don de la miséricorde du Père, nous sommes poussés à être miséricordieux comme lui. Je suis venu appeler non pas les justes mais les pécheurs, dit Saint Marc, chapitre 2, verset 17. Et Dieu est riche en miséricorde, nous dit Saint Paul. Mais ça, on le sait. Pour l'examen de conscience, chacun doit se mettre en face, non pas d'un catalogue de péchés, mais en face du Père riche en miséricorde qui nous a parlé en son Fils. Cependant, voyez, là, c'est, voyez, on veut vous rassurer, c'est pas un catalogue de péchés, on veut pas trop vous influencer. Mais c'est pas vrai. Il y a 10 commandements, il y a 10 commandements. L'enfant, il dit, je voudrais apprendre à lire sans effort, apprendre à compter sans effort, et sans jamais être examiné, et sans jamais être noté. Mais c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Si, mon institutrice, c'est une magicienne, elle m'a dit que j'apprendrais sans jamais être noté. Oui, mais elle fait ça depuis 10 ans, et tout le monde est nul, ne sait ni lire, ni écrire, ni compter. Donc, ta maîtresse, elle a tort. Ouais. Et le prêtre qui vous dit, mais faites ce que vous voulez, maintenant je ne confesse plus, Dieu est bonté inconditionnelle et miséricorde inconditionnelle, faites tout ce que vous voulez et aimez, comme dit saint Augustin, aime et fais ce que tu veux. Après, c'est la foire d'empoigne. Parce qu'en fait, plus personne ne sait où le vrai, où le faux, où le bien, où le mauvais. Oui. Moi, je suis né à Paris, de parents corses, mais lui-même né en région parisienne, à Versailles, mais il a vécu en fait à Colombes. Voyez. Eh bien, on n'a jamais confessé jusqu'à ma communion solennelle. Non, si j'avais lu le catéchisme de l'Église catholique. Qui n'était pas encore écrit, mais enfin, il y avait d'autres catéchistes qui le disaient très clairement. J'aurais pu aller voir le curé en disant, mais c'est pas bien ça ce que vous faites. Vous me donnez pas les moyens de sanctification que Jésus a donnés. Cependant, certaines formules, certains textes résument fidèlement la parole de Dieu et peuvent nous aider. Oui, certaines formules, comme ils disent là dans ce petit guide amusant, oui, Les 10 commandements, c'est une formule. Non, c'est la parole de Dieu elle-même. Oui. Les examens de conscience nous aident aussi à approfondir tel ou tel aspect, telle dimension de notre vie. La vie, l'exemple et l'enseignement des saints nous aident aussi. Ah oui, oui. Alors, ce qui est amusant, c'est que dans son petit livret, ils ont donné la vieille formulation des commandements. Donc ça, c'est bien, parce que c'est clair, hein, c'est pas du novlangue. 10 commandements.